Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Quoi de neuf, docteur ?
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Quoi de neuf, docteur ?
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Alors, en ce jour, nos trois célébrissimes docteurs de la clinique du je-sais-tout s'avancent avec circonspection vers leur lieu de travail. Le thème du colloque de ce jour est « Fais-moi peur ». Les connaissant depuis une année radiophonique, voire bien plus pour certains, je sais qu'ils n'ont même pas peur, comme l'on dit dans les cours de récré de la République laïque, ou religieuse même. Pourtant, il y aurait parfois de quoi être effrayé par des perspectives inquiétantes. Imaginez par exemple que la folie des hommes qui nous gouvernent ou qui nous dirigent par les cours de l'action entraîne un processus irréversible pour notre planète. Et que, à court ou moyen terme, la dite planète devienne invivable. Que nous restera-t-il comme solution pour concevoir un avenir ? Rien devant un problème devenu insoluble. This is the end. Ou encore, si nous arrivions par miracle ou hasard à échapper au cataclysme environnemental, la planète se sauve, mais en instaurant de-ci de-là des régimes dictatoriaux qui emprisonneraient les citoyens, fussent-ils globaux et mondialisés, dans de nouvelles geôles qu'avait prévu Orwell en datant son ouvrage 1984 avec un peu d'anticipation certes, ou encore son confrère Aldous Huxley, nous faisant vivre dans le meilleur des mondes qui serait donc notre avenir. Au secours, au jeu du « fais-moi peur », nous attendons avec impatience ce que voudront bien nous dire nos docteurs en frisson. Qu'ont-ils de terrible à nous conter pour nous faire peur ? Ou alors vont-ils fanfaronner pour nous dire que s'il y a bien des sujets qui devraient provoquer la peur, eux, ils sont immunisés contre le virus de la trouille internationalisée. Fais-moi peur, oui, mais de quoi et de qui ? Et je te dirai qui tu es. La mouche se retire en bourdonnant, se prenant pour un lointain cousin ou pire, en mutant en guêpe pour faire peur. M'abuse, House et Jekyll à la rescousse. Terrorisez-nous, s'il vous plaît. On adore frémir. M'abuse.
Alors, fais-moi peur. Je voudrais refaire une petite référence historique. Le titre de notre émission s'appelle « Quoi de neuf, docteur ?»« What's up, doc ?» Titre tiré en référence au dessin animé de Tex Avery. Et dans Tex Avery, il y a un personnage assez intéressant qui s'appelle Droopy et qui fait systématiquement « bouh » et qui fait très, très peur aux loups. Avoir peur, c'est avouer une faiblesse, une mise en danger que l'on a plus ou moins de peine à surmonter. Cela peut être aussi un moyen de galvaniser sa propre énergie à résoudre la difficulté. La peur est donc un thermomètre de ses propres capacités ou incapacités à affronter la réalité et agir sur elle. Fais-moi peur est ambigu. Cela peut être l'envie de se soumettre à une opinion que l'on n'a pas les moyens de contrer ou le souhait d'une montée d'adrénaline pour se surpasser. Dans tous les cas, l'aveu d'une faiblesse. Cela peut être aussi l'objet d'un jeu, dans le but d'établir un rapport de pouvoir. Si tu n'es pas capable de me faire peur, tu n'es pas à mon niveau. Un peu comme dans le film Le Limier, avec Michael Caine et Laurence Olivier, ou dans Qui a peur de Virginia Woolf, avec Richard Burton et Liz Taylor. Que dire des enfants qui, en dehors du « na », peuvent déclarer « même pas peur » pour affirmer, non pas qu'ils n'ont pas peur, mais que l'autre n'a pas le droit de le penser. Alors, fais-moi peur, une provocation ? Même pas cap. Avoir peur d'une idée, d'un résultat électoral, du noir, du vide, de la vitesse. En fait, c'est sans doute une autre manière d'avoir peur de sa propre mort, qu'elle soit effective ou symbolique. Ne pas avoir peur de mourir, c'est sans doute ne pas avoir peur du tout, mais c'est peut-être aussi être inconscient de l'état de sa propre existence. Au fond, dire « fais-moi peur », c'est peut-être aussi dire à l'autre « prouve-moi que je vis ».
Eh bien, dites donc, House, je crois que notre docteur Mamuse a mis la barre très haut. Alors, donc, on vous attend maintenant, House.
Le docteur a développé. Alors, qu'est-ce que la peur ?
un instinct animal devant le danger. Le problème avec l'humain, c'est qu'il a une imagination débordante. La peur et le danger ne sont pas toujours associés. Les humains vivent peu dans le domaine des perceptions et énormément dans le monde des représentations. Nos peurs sont pratiquement les productions de notre esprit. Pour l'individu, croque-mitaine, perro-fouettard et monstres divers sont des créations éducatives. Surmonter ses peurs, craintes, inquiétudes, frayeurs, sont l'apprentissage du courage, même pas peur. Mais ce qui me donne la frousse, c'est quand la peur résulte d'une action dirigée sur un plan collectif, pour intimider, effaroucher, épouvanter, menacer. Voilà les dictatures, et seuls les fous n'ont pas peur. La peur de se retrouver dans la crainte des autres, de fuir les relations humaines, le résultat en est désastreux. Ce type de peur se traduit par un refus de s'engager, elle détruit la volonté. De la peur de tous naît la lâcheté de presque tous. Si les régimes démocratiques se refusent à terroriser activement, il arrive que les candidats au pouvoir utilisent le sentiment d'insécurité et la crainte de la violence pour manipuler et asservir. Arme de cynisme politique, la peur est alors un creuset d'injustice et de haine irrationnelle. Elle alimente les hostilités, les phobies et sert à fabriquer des boucs émissaires. En conclusion, ce qui me met la trouille, ce sont les peurs des autres.
Et pas les vôtres, Dr House. Alors, il nous reste un petit docteur, le dernier. Enfin, un petit, j'exagère, c'est pas un petit, c'est le Dr Jekyll. Vous pensez bien qu'il a forcément une opinion. Ouh, Dr Jekyll.
Sous le prétexte fallacieux que la peur relèverait de l'instinct de survie face à je ne sais quel prédateur, la chose a été récupérée par le monstre froid qu'est l'État, sous quelque forme qu'il apparaisse pour contrôler les foules, autrement dit le peuple. Les naïfs appellent ça le droit. Et comment l'État fait-il peur ? Par le biais de la menace. Menace de punition, qui peut aller jusqu'à la mort. Alors étant donné que je ne crains pas l'État, je crie haut et fort, même pas peur. Et comment ai-je surmonté ma peur ? En devenant addict, comme on dit aujourd'hui, à l'adrénaline. L'hormone de la peur, précisément. Certes, je me suis fait ainsi des cheveux blancs avant l'âge, par bravoure uniquement. En fait, de quoi peut-on raisonnablement avoir peur ? Ben, de la mort. Mais je me sais immortel depuis que j'ai semé quelques progénitures qui assureront au moins un temps une mémoire vive en ce qui me concerne. Et tant que l'on parlera encore de moi, ben je ne serai pas tout à fait mort, donc j'ai pas tout à fait peur. Mais revenons au pragmatisme ambiant. Il y a ce monstre froid qu'est l'État. Et au-delà, la civilisation, la culture judéo-chrétienne occidentale, qui nous pollue la vie depuis la naissance. Comment procède-t-il ? Par le moyen de cette dialectique élémentaire et cartésienne, les deux notions soi-disant contradictoires que sont le bien et le mal. Si tu ne fais pas comme la société te dit de faire, alors tu seras puni, d'une façon ou d'une autre. La punition peut être individuelle, voire collective. Un exemple. En 1940, Pétain nous tint ce type de discours. La France a péché, elle doit se repentir, autrement dit collaborer, pour connaître le salut. Et ça commence dès le plus jeune âge. Si t'es pas sage, le loup te mangera. Si tu ne travailles pas bien à l'école, tu n'auras pas un beau métier. Si tu respectes pas la loi, t'iras en prison. Quoi qu'il en soit, c'est ta faute, ta très grande faute. Repens-toi, nom de Dieu. Résultat, si t'es au chômage, c'est bien fait pour toi. Paresseux que tu es, la peur est devenue sur le plan sociétal comme une épée de Damoclès, comme une menace permanente, un châtiment. Enfin, moi, m'en fous, même pas peur. Pourquoi ? Eh bien parce que l'État, ce monstre froid, subit le réchauffement climatique et qu'il tiédit le bougre. Du coup, juste retour de balancier, c'est lui qui commence à prendre peur. Bien fait. Alors, comme dans la série Le poisson dans l'eau, on est passé du « fais-moi peur » au « fais-lui peur ». Moi, toi, lui, juste une question d'organisation des mondes. Et moi, je ne saurais tarder à partir dans les couloirs d'une retraite déméritée, dans l'attente de ma première peur, intitulée « Dans quelle étagère ?»
Aïe, sacré docteur Jekyll. Alors on va en lancer un petit débat dans notre clinique du Je sais tout. Alors nos trois docteurs ont donné leur impression globale, mais maintenant j'aimerais bien les entendre parler entre eux, s'interpeller, peut-être s'opposer, sait-on jamais. Qui veut commencer le petit débat? Ah, toujours Mabuse. Vous remarquez que nous avons un docteur courageux qui n'a pas peur. Il n'a pas peur de commencer.
Non, moi je partage tout à fait le point de vue de Jekyll sur le problème de la mort. Je pense que c'est l'image de la mort, la manière dont on l'a façonnée dans notre société de civilisation judéo-chrétienne, qui fait que ça peut être le seul objet de crainte, de peur, mais en même temps avec une solution qui est la rédemption. C'est-à-dire, confessez-vous et je vais vous donner exactement la ligne à suivre pour ne pas avoir peur de la mort, puisque vous, en étant complètement absous des fautes que vous avez commises, vous avez droit à la vie éternelle. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur? N'ayez qu'une seule crainte, c'est celle de Dieu et de l'Église qui est censée le représenter.
Et de l'État.
D'ailleurs, Jean-Paul II, c'est la grande phrase de Jean-Paul II, n'ayez pas peur.
Oui, absolument. C'est vrai.
Et donc, je pense que l'homme le plus dangereux actuellement sur la planète, c'est sans doute François, le pape François.
Mais de ce que vous dites, là, il y a une nuance. Entre la peur, moi c'est ce que j'appelle entre la peur et l'angoisse. Parce que ce qu'on définit justement dans la peur de la mort, ce n'est pas la peur, c'est l'angoisse. Parce que la peur est le résultat d'une agression extérieure, c'est-à-dire c'est... le loup qui arrive, la bête féroce, c'est la chute, c'est ce qu'on veut. Alors que l'angoisse est une agression intérieure. C'est à partir de ce moment-là, c'est soi-même, effectivement, qui nous créons
notre
peur. Et c'est ce qu'on appelle, non pas la peur, mais qu'on appelle l'angoisse. Alors l'angoisse, c'est une chose, la peur en est une autre.
Là, je suis moitié d'accord.
Jekyll,
parce qu'en fait, la peur sur le plan sociétal relève de l'État. C'est l'État qui a créé l'idée de peur. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni. Et tu seras puni, tu auras une amende, tu iras en prison, jusqu'à la peine de mort. Donc le stade ultime de la chose.
Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de travail.
Et au bout du compte, inculquer aux gamins dès leur plus jeune âge, tant et si bien que le gamin... Quand il devient adulte, il s'autodiscipline, il s'autocensure, il se fait peur tout seul. Et alors à ce moment-là, tout va bien. Sauf celui qui, justement, se fait pas peur tout seul. Alors celui-là, il n'est pas contrôlé, il n'est pas contrôlable. Alors, là, je suis d'accord avec House. Là, à ce moment-là, c'est l'insécurité. L'insécurité, parce que le type n'est pas contrôlable, parce que, justement, l'État ne lui fait pas peur.
Il sort du cadre qu'on lui a fixé.
Et pour moi, la peur, hors la question finale de la mort, est quelque chose qui relève purement et simplement de l'État. Supprimons l'État, on n'aura plus de peur.
Le docteur Jekyll veut toujours supprimer l'État.
Je pense qu'il n'a pas tort sur le fond, mais il y a un philosophe qui a beaucoup travaillé sur cette question, enfin, entre autres, c'est René Girard, quand il explique qu'effectivement, toutes les périodes, toutes les sociétés ont créé des phénomènes de peur, de crainte. Alors, je ne sais pas si ça va jusqu'à l'angoisse, mais parce que l'angoisse est paralysante. Alors que la peur, justement, Jekyll l'a très bien dit, moi j'ai aussi cité ça, c'est le problème de l'adrénaline. C'est-à-dire, le fait d'avoir conscience de sa peur peut permettre à certaines personnes de créer un tel taux d'adrénaline qu'il est capable de la surmonter.
Se dépasser.
Ou d'avoir des solutions pour la surmonter. Et René Girard explique très très bien que les peurs qui ont pu avoir lieu à telle ou telle période, par exemple la peur de la peste, y compris dans des régions où elle n'est pas arrivée, comme étant une punition fatale, etc., souvent liée à un phénomène religieux.
Le ciel qui nous tombe sur la tête.
Le ciel qui nous tombe sur la tête à l'époque de Gaulois.
La peur de l'immigration, quoi, il n'y a pas d'immigrés.
Absolument. Oui. Donc ce sont des phénomènes, moi je crois que d'un point de vue sociologique, la peur c'est intéressant parce qu'effectivement, elle permet souvent de canaliser le peuple et donc l'invention du bouc émissaire, c'est la même chose que le phénomène de la confession dans certaines religions.
Ce que tu viens de dire, là, à mon avis, est très juste. Hein, mais moi, je fais le distinguo, enfin, où j'ai voulu faire le distinguo, je ne sais pas si ça a été bien fait.
Alors, effectivement, positive et négative. La peur,
cher mon frère, bien sûr, ton distinguo était très...
Mais ce que je veux dire, parce que là où la peur, à mes yeux, est extrêmement dangereuse, justement, c'est ce que tu as souligné. C'est quand elle prend une dimension collective. Et là, à partir de ce moment-là, bon, on peut l'appeler panique, on peut l'appeler... que ce soit, par exemple, un immeuble en flamme, où effectivement, les gens se le manquent de sang-froid, etc., ou en fin de compte, ils se tuent eux-mêmes.
Hein, ils sautent par la fenêtre.
Mais ça, c'est la panique.
C'est la panique. Mais la panique, elle va dans ce sens, c'est la peur collective. Et il va de soi, et là, je rejoins un petit peu notre ami Jekyll, le docteur Jekyll, c'est qu'en fin de compte, quelque part, il faut quand même voir que la peur a toujours été une arme du pouvoir.
Mmh, absolument.
Et c'est là où réside à mes yeux le plus gros danger.
Et c'est là où le pouvoir parfois il presque remis en cause. On pourra prendre un exemple, alors tout ce qui est le plus concret. Dimanche dernier, élection européenne, le FN gagne,
entre guillemets.
Et l'État, l'État global veut faire peur. Or, les gens, justement, là, ils ont plus peur. Et alors là, c'est panique générale au niveau de l'État. Ah ouais. Ça devient incontrôlable et du coup, l'État est insécurisé quelque part.
Mais ce qui est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur le problème de l'État, c'est est-ce que les gens n'ont plus peur du Front National ou est-ce qu'ils n'ont plus peur de l'État ?
Les deux.
Non, de l'État, je crois.
Oui, moi aussi, je crois de l'État.
De l'État. Et c'est là où l'État commence à paniquer, sérieusement. Quoi.
Voilà une analyse des élections qui est particulière, mais qu'on peut tout à fait comprendre.
Oui, c'est un angle qui mériterait d'être quand même approfondi.
Oui, bah écoutez, vous avez encore une ou deux minutes pour le faire. Hein. Continuez si vous avez envie d'aller sur ce sujet ou de revenir sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que la peur a toujours été...
Au niveau de la peur, on pourrait reprendre... alors avec la crise, le machin, les déficits, le ci, le ça, et on voit le gouvernement actuel. Mais le prédécesseur de Sarkozy, c'était pareil. Attention, si on ne fait pas telle réforme, telle chose, etc.
Ça va plus marcher.
Ça va être la catastrophe, etc. Bref, il veut faire peur. Et donc, tant que les gens ont peur, ils acceptent la rigueur, l'austérité, le machin, le bidule. Et à un moment, là, c'est pratiquement aujourd'hui, ils n'ont plus peur ou pas assez peur.
Donc,
ils commencent à critiquer, oui, l'austérité, la rigueur, le machin, le bidule, j'en ai marre.
On peut voir, par exemple, en Grèce, ce qui s'est passé pendant cette élection européenne. C'est assez curieux, quand même, où c'est le Front de Gauche qui arrive en tête des élections, parce qu'ils n'ont pas peur de dire non à cette Europe-là.
Oui, mais on voit deux Europes là-dessus. Cette Europe qui n'a plus peur, la Grèce, la France... L'Espagne, l'Italie. Et puis cette Europe qui continue à avoir peur, l'Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, et qui vote à fond pour le système. Merkel en Allemagne a gagné les élections européennes.
Haut la main.
Et donc, quantité de pays du Nord. Là, on a vraiment deux Europes, une qui a peur et une qui a peur.
Si on veut revenir sur les élections, il y a un autre axe de lecture aussi. C'est qu'en fin de compte, ce que tu dis par exemple en Grèce... Et ce qui se passe avec le Front National en France, on peut considérer qu'effectivement, c'est les mêmes angoisses qui ont produit les deux mêmes effets. Seulement à partir de ce moment-là, si les angoisses sont les mêmes, la solution à cette angoisse n'est pas la même.
Ah non, pas du tout. Non,
parce que dans un sens grec, c'est pas une hostilité.
C'est pas les gens qui ont peur.
C'est pas une hostilité
à l'Europe.
C'est un moyen pour agir sur l'Europe, alors qu'en France, c'est une hostilité... dans lequel, même y compris, bon, on peut penser que l'hostilité va jusqu'à sa disparition de l'Europe. Donc, la même angoisse, là, dans ces deux cas, avec les mêmes sources,
c'est pas avec les mêmes
causes, ne donne pas obligatoirement...
Pour moi, c'est pas le peuple qui a peur, ni qui est angoissé, c'est l'État.
Ah ben, si, moi, je pense que c'est le peuple qui est angoissé. Et c'est une angoisse vis-à-vis de l'avenir. Quand on entend les uns et les autres dire, bon, ben, aujourd'hui, c'est pire qu'avant, mes enfants, demain, lorsqu'on pose la question... est-ce que vos enfants vivront mieux que vous demain ? Les gens répondent non.
Bon, excusez-moi.
Ça, c'est une angoisse sur l'avenir.
Oui, excusez-moi, Aous, on va bientôt conclure cette petite émission parce que c'est une émission qui veut être assez rapide. Peut-être pour que nos auditeurs n'en aient pas plein la tête et ne comprennent plus rien au bout d'un moment. Mais vous êtes toujours très clair. Hein. Je vous remercie pour votre clarté. Et ben, ça tombe très, très bien parce que la semaine prochaine, figurez-vous, nous allons parler de la vérité. Alors, on va peut-être tout savoir sur cette vérité. Alors, je vous laisse plancher.
Pravda en russe.
Pravda, oui, c'est ça. Hein, c'est la vérité. C'était le journal du Parti communiste, l'organe du Parti communiste en Union soviétique. Alors, donc, déjà, la vérité, peut-être, il y a plusieurs sens à ce mot. Mais ça, on vous le gardez pour la semaine prochaine, pour nos auditeurs.
La vérité, je vous le dis.
Oui, la vérité, je vous le dis. Ou la vérité, si je mens, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, je vous laisse, mes chers docteurs, et à la semaine prochaine pour les toutes dernières nouvelles de demain.
Alors, quoi de neuf, docteur ?
Notre route est droite, mais la pente est forte.
La NSA a espionné aussi l'Union européenne à l'ancienne.
La guerre continue.
C'est la réforme, oui, la chienlit, non.
La politique, on a l'impression que c'est comme le Tour de France.
Fais les valises, on rentre à Paris.
Nous ne voulons rien instrumentaliser.
Je vous demande de vous arrêter.
Nous avons décidé de ne pas mentir.
On dénombre 3 264 500 demandeurs d'emploi.
L'armée a repris le pouvoir.
Point neuf, docteur.
Je ne suis pas revenu à la mairie depuis 2 ans.
Point neuf, docteur.
Alors, quoi de neuf, docteur ?